Mes bien chers amis, le 13 mai de cette année, le jubilé d'or des apparitions de Marie à Fatima s'est ouvert magnifiquement par l'assemblement de 3 millions de pèlerins là où il y a 50 ans, la Reine du Ciel se montrait pour la première fois aux trois petits bergers de la Cova d'Airia. Le plus insigne de ces pèlerins était le pape lui-même, Paul VI. Le Saint-Père y est venu à seul titre de pèlerin. Il y a célébré la messe à midi, à l'heure et à l'endroit où Marie venait faire ses visites aux voyants. Après avoir prié Marie, surtout pour la paix dans le monde et la paix à l'intérieur de l'Église, le pape est rentré le jour même à Rome. Le Saint-Père a une grande dévotion à Marie et une grande confiance en elle. Une autre présence insigne à Fatima le 13 mai de cette année, ce fut celle de Lucie, l'aînée des trois petits voyants de 1917. Les deux autres, ses petits cousins, moururent tôt, ainsi que Marie le leur avait annoncé. Lucie a 60 ans cette année. Elle est religieuse cloîtrée dans un carmel de Coimbra, au Portugal. Lucie ne devait plus franchir la clôture du cloître, pas même pour le jubilé d'or des apparitions, mais le pape tint à ce qu'elle soit présente. Lucie assista donc à la messe dite par le pape ce 13 mai. Elle reçut la communion de sa main. Après la messe, le pape la fit venir près de son trône, la bénit, baisa son voile et la présenta à la foule qui fit une ovation délirante. Moment de grande émotion pour elle, et elle ne put retenir ses larmes. C'est que la scène d'il y a 50 ans restait, on le pense bien, vivante à l'esprit de la voyante, et combien différente celle d'aujourd'hui. Le 13 mai 1917, la cova est un package plutôt maigre où paissent des moutons sous la garde de trois petits bergers. À midi vient soudain une dame, une belle dame, qui, à la question de Lucie, « D'où venez-vous, madame ?» répond, « Je suis du ciel. » Ainsi commence, pas à la façon des hommes, mais à la façon de Dieu, simplement, sans tambour ni trompette, sans faste, sans convocation de personnage, à la façon de Nazareth, lorsque l'archange apporta à la terre la plus grande nouvelle de tous les temps. Ainsi commença, ce 13 mai 1917, une série d'événements qui allaient influencer non seulement la vie des trois petits voyants, mais aussi celle de millions d'autres personnes et se répercuter sur l'Église tout entière. Et à midi du 13 mai 1967, la bergère de 10 ans, devenue une carmélite de 60 ans, est de nouveau là. Le package est changé en un vaste sanctuaire de plein air. De moutons, plus, mais une masse de fidèles en prière. À l'autel, un pape, et Jésus-Christ lui-même sur l'autel. Quelle fête sur ce coin de terre portugais! Comme du ciel, la belle dame doit se pencher avec tendresse sur sa messagère fidèle, comme son cœur maternel doit être consolé à la vue de cette vaste assemblée attestant que son message n'a pas été totalement en vain. C'est d'ailleurs 50 années de culte grandissant, 50 années de pèlerinage, 50 années de supplications, de louanges, d'actions de grâce, de retours à Dieu, que porte déjà ce sol d'élection vers lequel daigna descendre celle qui intercède continuellement auprès de Dieu pour les hommes qui, par l'amoureuse volonté de son Fils, sont devenus ses enfants. La montée de Fatima a été merveilleuse. La Vierge avait demandé de lui construire une chapelle à la cova. L'évêque de Leiria y a fait ériger une basilique, la plus grande église du Portugal, longue de 280 pieds, haute de 171 pieds. Elle est consacrée à Notre-Dame du Rosaire, vocable sous lequel elle s'était nommée à Lucie. L'autel principal et 14 chapelles latérales y rappellent les 15 mystères du Rosaire. Une grande esplanade, 10 fois la surface de celle de Lourdes, a été aménagée pour les cérémonies en plein air des grands pèlerinages. Le 13 mai et le 13 octobre surtout, les pèlerins s'assemblent là par des 500 000, parfois 1 million et plus. Pas tous venus en voiture. Fatima garde son caractère de prière et de pénitence. Il est des pèlerins qui font des 250 000 à pied, prenant toute une semaine pour s'y rendre en priant et en méditant. Un grand nombre font au moins les derniers 1000 à pied, plusieurs nu-pieds portant leurs chaussures pendues à leur cou. Le 13 octobre 1931, tous les évêques du Portugal, assemblés là à Fatima, consacrèrent solennellement leur patrie au cœur immaculé de Marie. Cette consécration allait valoir au Portugal la préservation de la guerre civile déclenchée par les communistes en Espagne qui ensanglanta terriblement ce pays pendant 2 années, et aussi de la Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945. Le 10 février 1939, le pape Pie XI mourait au Vatican. 9 jours plus tard, avant même l'ouverture du conclave pour l'élection d'un nouveau pontife, le saint pape Pie X, mort depuis 25 ans, apparaissait au cardinal Eugène Pacelli, celui-là même qui avait été consacré évêque le jour et à l'heure où Marie faisait sa première apparition à Fatima. Pie X annonça à Eugène Pacelli qu'il serait l'élu du conclave et que sous son pontificat, une terrible tourmente s'abattrait sur l'humanité. De fait, Eugène Pacelli fut élu pape le 2 mars suivant, prenant le nom de Pie XII, et 6 mois plus tard éclatait la deuxième grande guerre mondiale qui allait durer 6 ans, 6 années de haine, de carnage et de destruction. Pie XII, qui fut vraiment le pape de Fatima, consacra le monde entier au cœur immaculé de Marie le 31 octobre 1942. La guerre se termina en 1945, mais le monde ne se convertit pas encore, et le communisme, débordant de la Russie, assujettit 11 autres nations d'Europe. En 1950, il dominait la grande Chine, menaçant de se répandre sur tout le sud-est asiatique. Cependant, des fervents de Notre-Dame de Fatima conçurent et réalisèrent l'idée de porter triomphalement une statue de Notre-Dame de Fatima à travers toutes les nations où il était encore possible de pénétrer. Ce fut vraiment un pèlerinage de merveille à travers le monde. Sur tout le parcours de la Vierge pèlerine, des merveilles succédèrent aux merveilles. Signes sur la terre, signes dans le ciel, miracles, conversions, réconciliation entre ennemis, armes déposées, frontières abaissées, et partout des foules priant, chantant, acclamant la reine si belle, la mère si bonne, la si généreuse dispensatrice des grâces. Veut-on un exemple de conversion innombrable? À Madrid, capitale de l'Espagne, un congrès marial tenu en 1948 fut présidé par une statue obtenue de la Capellinha de Fatima. La statue fut portée en procession dans toutes les rues de la capitale. Des centaines de mille personnes prirent part à ces manifestations. On ne parlait plus que de Notre-Dame dans toute la région. Les foules assiégèrent les confessionnaux. Les confesseurs devant s'y tenir à la journée longue. Des communistes obstinés revenaient à Dieu. Les curés des faubourgs rapportèrent que 40% des pénitents venus de la confesse ne l'avaient pas fait depuis 15, 20 ou 30 ans. L'évêque de Madrid dit qu'il aurait facilement donné ses 25 années d'apostolat pour ces 9 journées mariales. Pour, veut-on maintenant un exemple de frontière abaissée? Prenons comme exemple celle qui sépare la France de l'Espagne. Pour passer d'Espagne en France, il fallait traverser sur le pont de la Bidassoa. Or, depuis 11 années, c'est-à-dire depuis le déclenchement de la guerre civile d'Espagne par les communistes en 1936, il était interdit de traverser la ligne frontière sur ce pont. Pas un homme, pas un colis n'y était passé dans un sens ou dans l'autre. La statue venant d'Espagne s'engagea sur le pont, porté par l'évêque espagnol de Vitoria, avec une escorte de ses fidèles. Du côté français, l'évêque de Bayonne, avec une escorte de ses fidèles, s'engagea sur la partie française du pont pour recevoir la Vierge pèlerine. Les deux groupes s'avancèrent jusqu'à la ligne médiane. Des deux côtés de la frontière, on est en pays basque et catholique, et c'est en langue basque que les fidèles du diocèse de Vitoria et ceux du diocèse de Bayonne chantèrent à pleine voix leurs acclamations à Paris, à Marie, les mêmes cantiques dans la même langue. Eux ne se regardaient pas en ennemis comme leurs gouvernements respectifs. Ils étaient frères, frères par le sang, frères par la langue, frères par la religion, frères par la même dévotion à la même mère, et ils le manifestaient avec élan. Les gardes frontières de l'un et l'autre pays eurent beau essayer de calmer ces effusions, rien n'y fit. On se touchait, on s'embrassait à travers la ligne fatidique, et lorsque, à travers cette ligne, l'évêque espagnol eut remis la Vierge pèlerine entre les mains de l'évêque français, basque d'Espagne et basque de France pouvaient conclure, « Maintenant que la mère a passé, les enfants passeront bien eux aussi. » De fait, quelques semaines plus tard, l'interdiction tombait officiellement et les relations entre les deux pays se sont progressivement améliorées depuis. Signalons aussi le prodige des colombes. Lors du 25e anniversaire des apparitions, en 1942, un gigantesque cortège accompagnait la Vierge portée de Fatima à Lisbonne, distance de 94 milles. Une personne de la ville de Bombaral lâcha 5 colombes pour honorer le passage de la Reine de la Paix. Au lieu de se disperser dans le ciel, ces colombes vinrent se poser au pied de la statue. Elles y restèrent, malgré la foule et le bruit, durant des jours, tout au cours des longues processions à Lisbonne et dans d'autres localités. Fatima est une explosion de surnaturel, a bien dit le cardinal archevêque de Lisbonne. Fatima est devenue l'espérance de toutes les nations. Il n'est pas exagéré d'appliquer ici la parole du poète, une grande espérance a traversé les cieux. Certes, la conduite du monde moderne, son néopaganisme, son rejet de Dieu, son matérialisme, sa corruption, serait plutôt nature à nous faire perdre tout espoir. Mais il y a Marie, comme l'a écrit l'abbé Perrière, entre la colère du Père Céleste et l'humanité coupable, il y a le cœur d'une mère. Et ce cœur de la mère triomphera, d'autant plus vite que nous lui rendrons le culte et les hommages exceptionnels qu'il réclame et que Dieu veut.